Le handicap aujourd'hui. Une émission proposée par Radio Plus avec le soutien de la Fondation de France.
Et nous sommes de retour dans cette seconde partie de l'émission Le Handicap aujourd'hui, troisième émission consacrée ce mois-ci au thème école et handicap, et plus largement enfance et handicap. Alors, je rappelle que nous avons avec nous aujourd'hui un comme invité, Valérie Degros, qui est donc la mère de Ryan Degros, élève scolarisé au lycée Voltaire de Vingles, et qui rencontre donc des difficultés avec le lycée au niveau de la scolarisation de Ryan et de l'aide qui doit être apportée à son élève. On en a parlé, bien sûr, en première partie d'émission. On est également en compagnie de Fali, chanteuse qui va justement s'exprimer d'ici quelques instants par rapport à son expérience d'AESH, hein, donc d'auxiliaire de vie scolaire en quelque sorte, hein, pour faire simple. Il y a également avec nous Serge Kaliski, qui est le coordinateur autisme au sein du réseau Bulle France, ancien vice-président de cette association. Jacques Kleinfetter également présent avec qui est donc le président de l'association Soliande, également présent Kevin Demoulin et Léa Voisin du projet Cyber Enfant. Et puis tout à l'heure, eh bien, nous aurons également la société Concept Autonomie dont on va parler, qui sont arrivés et qui nous parleront donc de leur toute nouvelle société. Donc ça, ce sera bien sûr tout à l'heure en dernière partie d'émission. On revient et puis bien sûr avec moi Julien de Radio Plus, et on remercie au passage Kevin et Céline et Service Civique de Radio Plus qui nous ont aidés à préparer cette émission. Alors, on va revenir à ce dont nous parlions juste avant la pause, c'est-à-dire donc à vos réactions, hein, par rapport au témoignage, à la fois au témoignage d'Océane et puis au témoignage donc Océane qui était donc scolarisée dans un lycée, hein, le lycée d'Archicourt, il me semble, et au témoignage donc d'un membre du collectif AESH 5962 qui est donc lui aide éducateur, hein, donc qui est spécialisé dans le handicap. Alors voilà, Valérie Degros, vous disiez tout à l'heure, vous parliez des heures attribuées aux auxiliaires de vie scolaire. Vous sembliez dire que c'était finalement assez aléatoire.
Oui, ça, c'est assez aléatoire. En même temps, faut rappeler aussi qu'au niveau de la MDPH, nous les familles, on a beaucoup de papiers à gratter, hein. Parce que, en fait, bon, là, je suis tranquille pour, enfin, pas pour la VS, je l'ai eu pour un an, mais pour tout ce qui est demande de droits, pour faire valoir les droits des personnes en situation de handicap, on vous demande toujours comment mon fils est malvoyant. Je faisais un dossier tous les deux ans, et ben, tous les deux ans, je dois remettre un champ visuel, acté par, donc, c'est reprendre des rendez-vous auprès, bah, moi c'est le CHR de Lille, donc c'est reprendre des rendez-vous, avoir le rendez-vous dans les temps pour remplir le dossier MDPH, parce que dossier MDPH, il faut faire la demande 4 mois avant la fin, 4 à 6 mois. Donc on est toujours, si on n'est pas avec notre enfant, parce qu'on, bah voilà, on a des difficultés au quotidien, bah il faut pas non plus oublier les papiers, les aménagements auprès de l'inspection académique pour les examens, que ça soit bien fait dans les temps, bien dans les dates. Mais moi aussi, qu'est-ce que je regrette un petit peu auprès de la MDPH, c'est quand on va penser à alléger les familles au niveau de... Parce que mon fils a une maladie génétique, comme beaucoup d'enfants qui ont différents handicaps. Malheureusement, en tant que famille, moi, je crois pas au miracle. Mon fils a une rétinite pigmentaire, je ne suis pas médecin. Je sais le final, qu'est-ce que ça va être. Donc pourquoi on nous réclame toujours de devoir justifier.
Oui, c'est ça, c'est la justification permanente.
À chaque fois, faut justifier.
Permanente, oui.
Alors que voilà, on voit des médecins, on voit des professeurs. Une fois que c'est acté, ça devrait être dans le dossier. Et puis ben voilà, on n'a pas de miracle à attendre. Hein. J'ai fait beaucoup d'églises, voilà quoi. Malheureusement, il y a rien. Donc ça, si déjà on pouvait nous alléger aussi de ce côté-là.
Oui, Serge Kaliski.
Oui, alors effectivement, quand on parle de la MDPH, on parle d'une institution qui s'appuie sur des experts qui sont, eux, médicaux. Et l'expertise met quand même de côté l'expertise des parents, puisque finalement, les premiers éducateurs de leur enfant, c'est les parents, d'abord. Et la MDPH ne repose que sur une expertise validée en matière finalement de handicap, même si au lieu de parler de handicap, parce que c'est très stigmatisant, on ferait beaucoup mieux de parler de différence. Mais a priori, c'est d'abord une institution qui ne validera que l'expert qui l'aura validé, et pas le projet de vie auquel vous faites référence. Ce projet de vie qui, effectivement, doit être écrit avec le temps que ça passe, soigné, où on doit ne rien oublier, sauf que ne rien oublier, sans doute que les parents le font très bien. Par contre, s'il n'est pas validé par un expert médical, on aura compris que la MDPH n'ira pas plus loin.
Voilà qui est à souligner, bien évidemment, et projet de vie qui est, si je comprends bien, quelque peu rébarbatif.
Alors, il n'est pas rébarbatif parce qu'il donne du sens à la vie, au quotidien des familles et de la personne concernée. Il devient rébarbatif dès lors qu'on a le souci qu'il faut justifier et que la seule personne habilitée à justifier de ce projet de vie, c'est un expert qui ne connaît pas, lui, l'enfant.
Alors, Océane disait tout à l'heure, le regard de dégoût ou de pitié, ça m'affecte terriblement. En quelque sorte, c'est ce qu'elle disait. Hein. C'est vraiment le ressenti qu'elle avait. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
C'est une problématique qui se pose pour l'ensemble des situations de handicap. Le regard pesant, culpabilisateur, ce regard de différence, de non-acceptation de l'autre tel qu'il est, celui qui veut qu'on rentre dans des clous, dans des cases, dans des normes, celui qui fait qu'effectivement, dès lors qu'on n'est pas dans ce cadre, alors on est là dans le jugement de valeur, dans les préjugés.
Et on dérange.
Et on dérange.
Eh bien voilà, pour l'ensemble de ce témoignage, on va passer évidemment à la suite. On va parler donc, à présent, puisque vous avez pris la parole, Serge Kaliski, ça tombe bien, hein, on va parler du réseau Bulle France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce réseau, sachant que vous êtes, coordinateur au sein de ce réseau?
Alors, si vous me le permettez, je ferai une introduction peut-être un peu particulière. Tu vois, quand j'étais dans le ventre de maman, j'entendais bien l'idéal que vous aviez de ce que j'étais, de ce que j'allais devenir, de tout ce à quoi vous croyez qui allait exister. J'avais qu'une envie, c'est de m'ouvrir au monde. Et lorsqu'effectivement est arrivé un 1er août, j'étais ravi de voir ce que j'allais voir, mais très très vite, j'ai compris que si moi j'étais ouvert au monde, le monde lui ne l'était pas vis-à-vis de moi. C'est la base même finalement de l'existence du réseau. Réseau Bulle existe parce que justement le cadre de la différence se pose très très vite dès lors qu'on est dans des situations que l'on ne comprend pas, dans des situations vers lesquelles nous avons des difficultés à avancer, la peur, l'inquiétude, le regard, tout ça contribue à des préjugés, d'autant plus que l'inquiétude on l'a dès lors que l'on est dans une situation de handicap invisible. Alors pourquoi le réseau existe ? Il existe parce que, d'abord, c'est la souffrance des parents qui existe. Celle qui, à qui d'ailleurs on prête bien volontiers un certain déni. Les professionnels, bien souvent démunis eux-mêmes, mais soi-disant experts, ont une tendance un peu facile à renvoyer aux parents une culpabilité qui n'existe pas. Au passage, nous avons parlé du médical, il faut quand même se souvenir que les situations vécotines, c'est 40 à 50 ans de non-accompagnement.
Oui, alors vous m'avez dit 40 ans de retard sur l'autisme en France.
Tout à fait. Alors, effectivement, il faut savoir que les situations avec autisme, aujourd'hui, c'est une naissance sur 100. Hier, c'était une naissance sur 150. Demain, ce sera une naissance sur 65. Cela concerne 700 000 personnes. Et pour autant, c'est le clinique qui s'est emparé de l'autisme comme étant bien facilement une maladie. Alors, qui dit maladie, dit traitement. Qui dit traitement, dit médicaments. Et voilà comment on réduit à l'état finalement végétatif tout un plan de public qu'on ne maîtrise pas et pour lequel on laisse finalement croire à des familles désemparées et démunies finalement quelque chose qui est très très lourd. Et quand je dis qui est très lourd, je pèse mes mots. Parce que ça veut dire très clairement que du coup, on a mis sur le bord de la route des tas de personnes aujourd'hui, d'enfants, d'ados, d'adultes, qui, par défaut de prise en charge, parce qu'on parle de place, notamment dans les institutions, on ferait mieux de parler de réponses adaptées. Autrement dit, oui, l'institution existe, pour certains, c'est effectivement une véritable solution-réponse, mais par contre, ne pas explorer la possibilité de pouvoir accompagner la personne différente chez elle, effectivement, aujourd'hui, c'est un pas vers lequel il va falloir aller. C'est pour ça que le réseau existe, et que, dès le départ, il est parti sur quelque chose, finalement, qui était très simple à mettre en place, notamment les cafés en rencontre. Tout simplement parce qu'un café en rencontre, c'est la rencontre de gens qui souffrent, qui se reconnaissent dans finalement une certaine communauté, où finalement ils ont le sentiment que ben, ils sont plus isolés, d'autres le partagent, et se rendent compte que finalement cette question liée à la souffrance de la famille, non seulement on la retrouve dans les questions liées à l'autisme, autant de formes d'autisme que d'autistes. Alors très clairement, vous aurez compris que quand on parle par exemple de la scolarité, ça voudrait dire qu'il faut donc des aménagements adaptés à chacune des personnes pour y arriver. Et si je veux aller plus loin, ben on aura compris aussi que dès lors qu'on parle des situations de différence, on parle de spécialiser. Alors que nous revendiquons le fait de vivre en milieu ordinaire. Donc le droit, qui est celui de la loi de 2005, n'est déjà pas respecté. Alors dans le fil de l'actualité, on aura compris que c'est beaucoup plus facile de faire régler la libre circulation actuellement sur les routes que de faire respecter une loi de 2005 qu'on a facilement oubliée, tout simplement parce qu'on oublie finalement des citoyens, parce que finalement, dès lors qu'on est différent, ben on n'est plus des citoyens comme les autres.
Serge Kalinski, en préparant cette émission, vous m'avez expliqué par téléphone, et j'ai pu retrouver le chiffre dans un article, que 80% des enfants autistes n'étaient pas scolarisés. Comment vous expliquez ce chiffre ?
Alors, l'explication, elle est relativement simple. Qui dit handicap, dit spécialisé. Et voilà comment on botte en touche, relativement facilement. Alors, les raisons, elles sont aussi très simples. Elles sont toujours les mêmes. Alors, on le retrouve dans l'éducation nationale, mais on le retrouve aussi au niveau de la jeunesse et des sports, dans les accueils de loisirs. Alors, un, on ne sait pas faire. On n'est pas formé. On n'est pas spécialisé. Bah, donc, on fait pas. Donc, finalement, la loi qui nous dit que jusque 16 ans, l'instruction est obligatoire et l'accueil se devrait de l'être, on aura compris que, là encore, les gouvernances successives ferment facilement les yeux sur un état de fait qui est quand même assez discriminatoire, simplement sur le fait de se dire que, ben voilà, quoi, comme on n'est pas prêt et qu'on ne sait pas faire, ben on fait pas et passe à l'autre. Alors le passe à l'autre renvoie à la nécessité pour les parents ben, de ne plus travailler pour l'un ou l'autre. Parce qu'il faut bien prendre en charge à un moment donné, accompagner son enfant. Ça veut dire aussi que 80% des couples se séparent. Enfin, voilà comment la société crée un cadre très, très discriminatoire à l'égard, finalement, de la prise en compte de l'ensemble de ses citoyens. Et forcément, ça veut dire aussi que l'enseignant, lui, dit « Mais moi, j'ai besoin de moyens. » Les moyens. C'est curieux de se rendre compte qu'on relativise aux moyens. Alors, l'expérience nous montre quand même que les moyens portent un nom, l'AESH. On veut peut-être bien, mais il faudrait surtout qu'il y ait quelqu'un qui accompagne, parce que là, comme ça, on sera sur deux. Enfin, c'est aussi une manière de se un peu dédouaner facilement sur des personnes qui peuvent être très volontaires, mais qui sont pour autant pas plus formées que les enseignants eux-mêmes. Et c'est là où le bât blesse, c'est-à-dire qu'on se réfugie derrière quelque chose de bien organisé, mais qui, au départ, ne répond pas à une réalité, celle du monde de l'acceptation de la différence.
Alors, justement, sur la formation, est-ce que c'est suffisant actuellement ou pas, d'après vous ?
Alors, la formation, c'est un des volets du réseau, parce qu'effectivement, que l'on aille voir du côté des médecins, commençons par eux, que l'on aille voir du côté de l'éducation nationale, des animateurs, que l'on aille voir du côté des assistantes sociales, on se rend bien compte qu'il y a un véritable déficit de prise en compte des réalités et des particularités de la personne avec autisme. Je le rappelle encore, autant de formes d'autisme que d'autistes. Et que cette singularité mériterait que non seulement s'y accompagne, mais pas de manière anarchique et experte, qu'elle soit accompagnée notamment par une co-construction intelligente, ce qui n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui, entre des professionnels et des parents concernés qui vont chacun apporter leur expertise pour aller le plus loin possible.
Alors, le Conseil de l'Europe a déjà condamné 5 fois la France pour violation du droit des enfants autistes à être scolarisés en milieu ordinaire. Un chiffre qui date de 2014. Est-ce que la France a fait des efforts, selon vous, et quels efforts restent à faire?
Alors, des efforts, chacun contribuera à dire qu'il y en a eu. Alors, effectivement, pour certains, c'est un grand effort. Alors, on va considérer, par exemple, que on est à 3 plans autisme. Le dernier ne s'appelle plus plan, il s'appelle stratégie. Alors là encore, on voit tout de suite la tactique. On y met de la dyspraxie, de la dyslexie, on y met d'autres choses qui relèvent des situations de handicap et de différence. On le noie avec un package de 349 millions d'euros et au passage, on le répartit sur 5 ans. Et si quelqu'un veut faire le calcul, il comprendra facilement que ça relève à 110 euros par personne et par an. Résultat des courses, on aura compris que c'est du saupoudrage intellectuel pour dire que l'on fait. Mais et en même temps, lorsqu'on regarde maintenant le contenu, on nous explique gentiment que c'est le diagnostic précoce qui est important. Alors c'est vrai, je suis assez d'accord là-dessus, parce que on nous l'a déjà dit sur les 3 plans d'avant. Donc vous voyez, le 4e, stratégie, mais pour autant on continue dans la même foulée. Ce qui nous interpelle, et ce qui devrait interpeller l'opinion publique, c'est qu'aujourd'hui, les parents qui sont concernés par les situations avec autisme, ont une vision du monde de demain autrement plus cruelle qu'il n'y paraît au quotidien. C'est-à-dire que, de deux choses l'une. Si je prends comme référence ma fille, qui effectivement a 15 ans aujourd'hui, elle me dit « Papa, tu sais, quand tu seras mort, je ferai comment avec Thibald ?» Ma réponse, elle est très simple. C'est « Tu feras de ta vie ce que tu pourras en faire au mieux, et tu ne devras pas être coupable et responsable de ne pas avoir fait. » Par contre, ce que veut dire pour nous, que si demain, Thibald n'a pas de place nulle part, que l'isolement se fait par la famille, l'isolement par les voisins, les amis, j'en passe des meilleurs, on arrivera à une situation où la seule solution pour Thibald, excusez-moi de la lourdeur, de la brutalité des propos, mais ce sera l'hôpital psychiatrique. Par rapport à une société qui aujourd'hui n'est pas inclusive, mais fait semblant d'y croire.
Thibald, c'est votre fils, hein?
Tout à fait.
De 14 ans.
C'est non, ça. Mais tout à fait. Qui effectivement, Thibald est donc dans une situation avec autisme non verbal.
Très bien, merci beaucoup Serge Kaliski. On va poursuivre ce débat, mais on va faire une parenthèse avec l'association Cyberenfants. On reviendra vers Fabienne Farfali juste après. On fait une petite parenthèse dans ce débat puisque les étudiants donc qui sont ici avec nous, à savoir Kevin et Léa, voilà, j'étais plus sûr, doivent impérativement partir justement pour soutenir. Ils doivent faire une soutenance, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Voilà, vous devez faire une soutenance, donc voilà, vous êtes un peu pris par le temps, donc on intervient.
N'hésitez pas bien vous répartir le micro, comme ça on vous entendra mieux. Et tout d'abord, quelques mots pour nous présenter Cyberenfants.
Alors Cyberenfants, c'est un projet qui a pour but de redonner le sourire aux enfants malades et handicapés, dans les hôpitaux, mais aussi dans les centres de soins, par des activités que l'on mène directement là-bas ou des dons que l'on offre.
Cyberenfants, c'est un projet qui a pour but d'aider les enfants malades et handicapés. Donc comme chaque année, nous faisons plusieurs actions comme des activités ludiques dans les hôpitaux, des emballages cadeaux et un raid de vente qui se déroulera donc du 9 au 15 mars 2019, donc pour récolter des fonds. Nous faisons également des dons à des associations comme en juin dernier à l'association des Ailes pour Raphaël. Lui l'aider à avoir ses soins en Espagne. Nous avons également fait des dons à Zoé, donc à l'association Et nos rêves, pour ses soins aussi et son opération aux États-Unis.
Cette année, nous avons organisé diverses actions pour récolter des fonds. Ça a commencé par une action de phoning pour une entreprise avec l'équipe Cyberenfants, mais aussi avec l'aide des autres étudiants du département TC. Grâce à cette action, nous avons pu financer l'achat de voitures électriques qui seront données à l'hôpital de Seclin en janvier. Mais grâce aussi à l'opération emballage cadeau qui a lieu actuellement dans les magasins Cultura, Auxibul et Auchan Noyer-le-Godot, Électro-Dépôt à Hénin-Beaumont et Boulanger-Béthune, nous avons pour ambition de fournir à l'IME Maléco de Lens, un conte musical à destination des enfants.
Donc un spectacle, si je comprends bien.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Un spectacle musical.
Et on l'a dit, l'un des volets de votre activité, c'est aussi d'installer des petites voitures électriques pour les enfants dans les hôpitaux. Expliquez-nous la démarche.
Alors en fait, il a été démontré que... Oh, pardon. En fait, il a été démontré que les voitures avaient une vertu apaisante pour les enfants lorsqu'ils vont se faire opérer en bloc opératoire. Et ça a commencé avec l'hôpital de Valenciennes il y a quelques mois, qui a fourni des voitures électriques à son service de pédiatrie. Et on a vu que ça fonctionnait très bien. Donc on a voulu apporter ça aussi pour les hôpitaux du secteur. On s'était rapproché de l'hôpital de Lens, mais malheureusement c'était pas possible. Donc on s'est penché vers l'hôpital de Seclin, et qui était très enthousiaste et qui avait déjà pour objectif d'acheter des voitures comme celle-ci. Et donc voilà, nous sommes proposés pour leur faire un don de ces voitures, et ce don sera fait en janvier, courant janvier.
Oui, parce que ces voitures, en fait, hein, ça enlève le poids psychologique qu'on peut avoir lorsqu'on est alité, sous perfusion, avec des brancardiers qui amènent le lit. Hein, c'est ça aussi, c'est pour rechasser un petit peu la peur de l'enfant à l'idée de se faire opérer.
C'est ça, oui.
Et puis c'est ça aussi, et c'est aussi par rapport aux parents. Aux parents, voir leurs enfants continuer à garder le sourire sans forcément se rendre compte, enfin s'ils se rendent compte qu'ils vont se faire opérer, mais ça enlève du stress, donc du coup ça enlève du stress aux parents et aussi aux enfants.
Alors il y a une première opération de don qui va être menée en janvier du côté de l'hôpital de Seclin. Est-ce qu'il y a d'autres hôpitaux avec lesquels vous êtes en contact pour cette démarche ?
Alors on est en contact avec l'hôpital de Béthune. On doit encore définir justement courant janvier quelles actions on va pouvoir mener durant les prochains mois. On est en collaboration avec l'hôpital de Lens, où on a mené une activité pour le jour d'Halloween avec des activités manuelles pour les enfants. Et plus récemment avec l'IME Maléco pour le conte musical.
Alors si on souhaite suivre votre actualité, si on souhaite vous aider, comment peut-on faire ?
Alors déjà pour nous suivre, vous pouvez nous ajouter sur Facebook, c'est le compte Cyberenfant, pour suivre toute l'actualité du projet. Pour nous aider, vous avez en ce moment l'opération emballage cadeau. Donc si vous voulez faire emballer un cadeau, vous vous rendez au centre commercial Auchan, dans le magasin Auxibule ou à Cultura et à Beaumont.
Donc jusqu'au 24 décembre.
C'est ça. Et ensuite, en mars, pour nous aider, il y aura le raid de vente avec les stylos. Donc un don égale un stylo. Les personnes peuvent donner absolument ce qu'elles veulent. Et puis voilà. Ou sinon, il y a aussi des tirelires qui sont disposés dans certains magasins comme Leclerc Angre, Intersport Vendée-le-Vieille, le restaurant Au Déjeuner de Lens et l'hôtel Le Tassili de Lens.
Et il y a également la volonté aussi pour vous de pérenniser ce projet Cyberenfant, parce que pour l'instant ce sont des étudiants qui se prennent le relais à chaque fois, comme vous. Vous avez envie de pérenniser ce projet, d'en faire vraiment une véritable association justement autonome.
C'est ça, oui. En fait, faut savoir que ce projet était en place depuis près de 20 ans. À l'origine, il avait pour but de fournir un accès Internet dans les centres de pédiatrie pour permettre aux enfants de discuter entre hôpitaux, grâce à l'aide d'un fournisseur d'accès Internet. Mais depuis la démocratisation d'Internet, le projet s'est un peu renouvelé et puis a suivi la voie actuelle. Et ce qu'on voudrait justement, c'est que ce projet puisse vraiment pérenniser avec la création d'une association à proprement parler, Cyberenfant, et non plus un projet étudiant.
Très bien. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir pris quelques instants pour parler de votre projet qu'on va suivre bien évidemment de près sur Radio Plus. N'hésitez pas évidemment à nous tenir au courant des avancées de ce projet. On reviendra vers vous régulièrement. Et puis je sais donc que vous avez pas mal de choses à préparer là, donc j'imagine que le stress monte un peu. Voilà, donc on vous souhaite évidemment, on croise les doigts pour vous tout simplement.
Merci.
Voilà, on fait une courte pause musicale avec une chanson qui parle d'inclusion, qui est interprétée par une rappeuse, l'original K, et vous allez voir, elle y va pas avec le dos de la cuillère.
C'est à nous tous qu'il appartient ici et maintenant de décider du monde dans lequel ces générations vivront. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite.
Ça y est, fin de l'été, on va entendre à la télé, nous vous souhaitons une bonne.
prié de rester chez lui. Le handicap c'est pas Frenchy. Si tu ne rentres pas dans les cases, on te considère comme un naze.
Je créerai tous les postes d'auxiliaire de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école.
Génération hashtag inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école, ni d'école. Génération hashtag inclusion ferme tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. C'est de la discrimination, mais pour autant pas de réaction. Tout le monde s'en fout, c'est affligeant. Qu'importe le calvaire des parents. La France encore dernière de la classe, toujours aussi inefficace. C'est l'éducation nationale et son système antisocial.
Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger.
Tag, tag, génération, hashtag, inclusion ferme, tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école, ni d'école. Génération, hashtag, inclusion ferme, tag. C'est que des belles paroles, en vérité, tu déconnes. Vivement, cette société change, celle où la différence dérange. Mais faute d'avoir votre intérêt, on demande juste un peu de respect. Mettez-vous un peu à leur place, regardez-vous dans une glace. Tous ces enfants handicapés, ils sont déjà condamnés. Vous les privez de leur avenir, vous êtes en train de les démolir. L'instruction n'est pas une option, il s'agit d'une obligation. Il faut croire qu'il y a des priorités, pour les handis y a pas de budget. Pendant que leur vie sont en attente, toi tu changes ta faïence. Génération hashtag, inclusion ferme tag. Sache qu'on est là, on lâchera rien, on cassera ce système inhumain. Génération hashtag, inclusion ferme tag. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école.
Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat.
Ferme tag, c'est que des belles paroles.
Il y a des dizaines,
tu déconnes,
au-delà des millions de personnes en situation de handicap et de leur famille, qui sont,
c'est que des belles paroles,
sans solution, livrées à elles-mêmes.
Tu déconnes.
À un quotidien où on n'apporte aucune réponse. Aucune réponse.
Voilà l'original K avec inclusion ferme ta bouche, on va dire ça.
On va le dire poliment comme ça, effectivement. Et c'est un clip d'ailleurs qui nous a été envoyé par l'association Maman Courage, qui est originaire de Nantes, si ma mémoire est bonne, association qui rassemble justement des parents et particulièrement des mères de famille qui sont touchées dans leur famille justement par le handicap, association nantaise, je le disais. Alors, on va retrouver à présent Fabienne, qui est chanteuse, qui, suite à un accident de voiture, a été atteinte d'un handicap qui provoque troubles de la mémoire et perte d'équilibre, mais qui, dans une autre vie, a été justement accompagnant d'élèves en situation de handicap. Alors, Fali, comment s'est passée cette expérience d'AESH?
C'était tout simplement magnifique. C'était un métier très enrichissant, aussi bien pour moi que pour l'enfant. Donc, il permet à ces enfants de pouvoir s'intégrer dans un milieu scolaire dit normal, donc d'être comme les autres, et donc de pouvoir s'intégrer au mieux ensuite dans la société. Donc, j'étais là pour l'aider, réexpliquer avec des mots qu'il puisse comprendre, reformuler, qu'il se sente à l'aise, donc qu'il puisse avoir des amis. Donc, j'accompagnais l'enfant aussi bien pendant les cours que pendant les récréations et les différentes sorties scolaires. Et pour vous, et ça je tiens à le lire, j'ai retrouvé un ancien élève, Jimmy Fourmentin, que je suivais en CM2 à l'école Jacques Prévert de Goncourt. Donc, je vais vous lire son témoignage qu'il m'a fait hier soir. Donc, j'allais à l'école comme tous les enfants et un jour j'ai rencontré une personne formidable qui m'a aidée pour mes problèmes. J'étais dyslexique et donc elle m'a permis d'avancer dans la vie de tous les jours. Depuis ce jour-là, on a fait connaissance et on s'est pas quitté pendant une bonne année à l'école Jacques Prévert. Donc bon, ça, je ne l'oublierai jamais. Moi non plus, je n'oublierai jamais Jimmy. Et son aide a été très précieuse. Donc, nos chemins se sont séparés. Il a ensuite intégré le collège, puis un CAP. Et il fait il effectue en ce moment même sa deuxième année en tant que paysagiste en alternance dans un lycée professionnel. Et voilà. Et vraiment, je tenais à te remercier, Jimmy. Je sais pas si tu m'écoutes, mais tu es vraiment un enfant formidable et tu resteras tout jamais gravé dans mon cœur.
Et il y a beaucoup d'élèves comme ça avec qui vous êtes encore en contact, Fabienne ?
Non, j'ai perdu un peu de vue un petit autiste, Louis, que je suivais en école maternelle le matin, avant de rejoindre Jimmy l'après-midi. Et lui aussi, mais ce sont des enfants, mais vraiment extraordinaires.
Alors, on a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission de la formation aussi des AESH. Est-ce que vous, Fally, vous avez eu, d'après vous, une formation suffisante pour accompagner ces élèves en situation de handicap ?
Je pense que chaque personne qui possède le baccalauréat et un minimum de connaissances peut faire cette fonction, mais il faut intégrer aussi énormément de patience et d'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute de ces enfants parce qu'ils en ont vraiment besoin.
Alors là, je vais m'adresser à tous nos invités présents autour de la table. Quelle solution pour pallier les différents problèmes qu'on a évoqués autour de l'accompagnement dans la scolarité ou les problèmes même de manière plus générale de non-scolarisation ? Qui souhaite réagir ? Serge Kalisky.
Alors, je crois que lorsqu'on en parle, et ce témoignage qui vient d'être mené, nous montre ô combien la formation n'est pas primordiale. La motivation, la conviction, son ouverture à l'autre, le respect de l'humain, ce sont autant, finalement, de paramètres qui permettent la réussite. Et effectivement, une personne en situation de différence, je le rappelle parce qu'on stigmatise dès lors qu'on parle du handicap, et c'est fou comment ça devient léger lorsqu'on parle de différence. Je le dis d'autant plus qu'effectivement, dès lors qu'on a trouvé la bonne personne, enseignant, animateur, AESH et autres, et que cette personne a envie de faire un bout de chemin, c'est là où on se rend compte que finalement, on grandit au profit de ces personnes, et ce sont elles qui nous font grandir.
Bien sûr, parce que pour moi, c'était beaucoup plus qu'un métier, en fait. J'accompagnais vraiment cet enfant, ces enfants, j'étais là pour eux, et enfin voilà quoi, c'est un partage.
C'est ce que semblait dire également Kevin Plouvier, oui. L'AESH qui était justement interviewé par Christophe Pasquier.
Tout à fait.
Mais du coup, quid quand même des moyens mis à disposition, même des moyens financiers au niveau de l'État, pour accompagner tous ces élèves qui ont vraiment une envie forte de faire leur accompagnement du mieux possible et avec passion, souvent.
Alors effectivement, quand on parle des moyens, on parle d'abord de la bonne personne à vouloir effectivement s'investir et s'engager au profit de l'autre, au bénéfice de l'autre. Et effectivement, l'État a cette fâcheuse tendance à reposer sur le milieu associatif pour ne pas remplir sa propre mission. En fait, lui qui parle de déni des familles ferait mieux de parler de son propre déni. On commencerait par ça, ce serait déjà beaucoup mieux. Et ce ne sont pas forcément tous les moyens, puisque dès lors que on soit dans une école, qu'une enseignante te dise « mais moi j'ai envie d'y aller, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais faire », mais si on co-construit, la co-construction elle passe par quoi ? Elle passe par des parents, elle passe par des associations de parents qui vont pouvoir contribuer, aider à mettre en place le projet qui sera le projet personnalisé de la personne. Et chacun contribue avec ses tâtonnements, avec ses erreurs, et chacun contribue aussi en admettant qu'il ne détient pas une expertise, mais que c'est l'ensemble des expertises parentales et professionnelles qui vont permettre d'abord au gamin d'évoluer. Et je crois que là, on l'a pas encore bien saisi. En fait, on attend tout de moyens, on demande que des moyens et encore plus de moyens. Les moyens existent. Encore faut-il qu'on ouvre les portes. Dans l'ascenseur, nous trouvons le directeur d'école, si je ne reprends que l'école, qui nous ont dit, mais il faudrait déjà voir l'inspecteur. L'inspecteur dit, faut voir le rectorat. Quand on arrive au rectorat, on nous dit, faut voir l'inspecteur. Quand on voit l'inspecteur, on nous dit, faut voir le directeur d'école. Et quand le directeur d'école, on le voit, il nous dit, faut voir un enseignant s'il veut bien. Parce qu'on aura tous compris que il y a pas d'obligation. Il y a des injonctions à libérer les routes, mais il n'y a pas d'injonction à faire respecter les droits fondamentaux de la personne en matière de scolarité. Et quand je le dis fortement. Parce que ça veut dire aussi que cette même injonction, on l'a aussi dans les centres de loisirs. C'est marrant, il n'y a pas d'injonction à faire valoir le fait que 2,8% de gamins aujourd'hui sont dans les centres de loisirs en situation de handicap. 2,8%. Et tout le monde dit, ah c'est scandaleux, mais dès lors que c'est l'autre qui fait, c'est mieux.
Madame De Gros, est-ce que justement vous voulez rajouter un mot là-dessus par rapport à tout ce que vous avez entendu aussi comme autre témoignage?
De toute façon, aujourd'hui, voilà, c'est, on en revient toujours au même problème, l'argent. L'argent, le pouvoir, parce que beaucoup se croient sous couvert qui font partie d'une structure comme notre belle éducation nationale, sont couverts de tout, donc ils peuvent tout se permettre. Et nous, les familles, bah, quand on gravit dans ces collèges, lycées, en primaire, ça va, parce qu'on rencontre des parents, on est proche. Puis après, on s'éloigne, notre enfant poursuit ses études. Et puis là, bah, on est vraiment seul. Autour de nous, il n'y a personne. Aucune famille ne va aller, même si dans la classe on va trouver inadmissible ce qu'on fait, ce que les professeurs font, enfin certains, il n'y a aucun élève qui va prendre le risque d'apporter une défense ou d'aller voir les familles et dire. Donc on est vraiment seul, c'est de l'abus de pouvoir de partout.
C'est vrai que je ne vous ai pas posé la question des délégués de classe, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans?
Alors monsieur, j'ai milité pendant 20 ans. En tant que présidente de parents d'élèves. Mmh. 20 ans. J'y ai cru pendant 20 ans. Au lycée, j'ai été aussi trésorière. Cette fédération existe toujours. Mais en fait, il faut être sage. Parce que si vous allez sur des terrains qui... Parce que, en fait, c'est des écrans de fumée. Excusez-moi, je vais... Mmh. Voilà, c'est ma vision de la chose. J'y ai été pendant 20 ans. Et quand on... Parce que c'est pas... Il n'y a pas que mon fils que... Enfin, voilà, j'ai pas défendu. Mais aussi, ils mettent le handicap. Et puis, on s'aperçoit que... Bah, malheureusement, bah, voilà, j'ai été confrontée à cette situation. L'égalité, machin. Pendant 20 ans, j'y ai cru. Et puis, bah, un beau jour, j'ai eu besoin d'eux. J'étais fédérée. Puis, on m'a fait comprendre que... Bah, il fallait que je me débrouille toute seule parce que... À l'époque, je viens de trop gêner le système, parce que après, c'est bien ancré, c'est bien tiré, quoi, en fait. Mais le temps qu'on s'aperçoit, hein, moi, pendant 20 ans, j'ai été idiote. Voilà, j'y ai cru. J'ai dit, ouais, mais il y a des textes, alors on vend des livres, il y a des textes de loi appliqués et tout, la loi de 2005, gna gna, l'égalité des chances, gna gna. Donc pendant que vous lisez tout ça et puis que vous menez des actions, machin, mais quand vous rentrez dans, ou vous rencontrez, moi je me souviens, il y a une année en primaire, en tant que parent d'élève, on était 5, on a bloqué l'école primaire, l'école Sophie Berthelot à Vingles, parce qu'ils allaient supprimer une classe. On était 5 parents. J'ai eu des ennuis, hein. Mais à un moment, la fédération, c'était titilleux. Tout était relié. De toute façon, tout est relié à la politique. Mmh. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, à un moment, quand ça va vraiment trop loin, quand vous voulez, et puis vous comptez sur eux, parce que on vous lâche. Donc, vous êtes seul. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai payé une carte, machin. Non, parce qu'au bout du compte, je vais me retrouver tout seul. La preuve, j'ai fini avec j'ai fini avec un avocat, des articles dans la presse, même la presse, c'est très difficile à les faire bouger. Hein. Moi, la dernière fois que j'ai demandé leur intervention, là, j'ai pas eu de réponse à mon message. Mmh. Ils ont vu. Mais voilà, c'est tout. On parle pas, c'est tabou. Il faut pas, on fait pas de zèle, on fait pas de débrouillez-vous. Je vais me débrouiller.
Alors nous, en tous les cas, on continuera d'en parler, bien évidemment, sur Radio Plus, également sur PFM, puisque l'émission sera rediffusée sur PFM, radio associative située à Arras, et qui fait partie du réseau de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Dans quelques instants, on va passer à un autre sujet, on va parler donc de jouets.
Oui, on va changer complètement d'univers. On va mettre de côté effectivement la partie scolarité, mais on va rester aussi dans le domaine de l'enfance, puisqu'on aura dans quelques instants la société Hop Toys. Alors la société Hop Toys, c'est une société de Montpellier, mais qui, figurez-vous, eh bien, a pas mal de clients dans notre région. C'est une société qui propose des jouets adaptés au handicap avec près de 2500 produits référencés en catalogue dans le but de favoriser l'émergence d'une société plus inclusive. Et puis on continuera à parler des initiatives pour l'accessibilité de tous dans quelques instants également avec la société Concept Autonomie. Cette fois-ci, on revient dans la région puisque la société, je crois, est basée du côté d'Auchy-les-Mines. On aura notamment Clément Delmar avec nous pour présenter cette société. Voilà, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Handicap. Aujourd'hui, on est encore ensemble pour un petit peu moins de 20 minutes et on devrait avoir d'ici quelques instants la société Hop Toys en ligne. Voilà, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes les informations autour du handicap sur notre site radioplus.fr.
Le handicap aujourd'hui.
Et nous voilà de retour donc dans l'émission Le Handicap aujourd'hui avec cette fois-ci eh bien une nouvelle invitée, c'est Marianne Viremounex, chargée de communication de la société Hop Toys. Bonjour.
Encore en ligne.
Alors on va l'avoir en ligne dans quelques instants. On va parler donc, je vous le disais, d'une société montpelliéraine qui propose des jouets adaptés. On va en savoir un peu plus, savoir également comment sont retenus les jouets et eh bien si on n'arrive pas à l'avoir en ligne pour le moment. Voilà, ça ce sont les joies du direct. Bah tiens, je vais me tourner
vers
Concept Autonomie. Oui, société là qui est de chez nous puisqu'elle est basée à Auchy-les-Mines avec Clément Delmar. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment est née votre société Concept Autonomie?
Alors en fait, c'est la société est née d'une histoire de vécu puisque mon père est lui-même une personne à mobilité réduite puisqu'il est atteint d'une syringomyélie. De là, en fait, il a fait construire une maison il y a de cela 10 ans environ. Et en fait, au fur et à mesure où sa maladie s'aggravait, il avait de plus en plus de mal à trouver des solutions qui répondaient à ses demandes ou qui n'étaient pas adaptées ou alors beaucoup trop chères pour lui. Donc de ce fait-là, nous avons, avec mon frère ici présent, cherché des solutions, je dirais-je, pour résoudre ces problèmes. Et donc, on est venu à la conclusion de créer notre entreprise. On est passé par la BGE qui nous a bien aidé pour monter notre entreprise, puis aussi par notre réseau qu'on s'est construit grâce aux pharmacies, ergothérapeutes, etc. Après, on a aussi plusieurs partenariats avec d'autres entreprises et aussi un club de foot que nous sponsorisons. Donc pour en revenir à la création de l'entreprise, en fait, c'est purement une histoire de vécu, et on pensait que c'était un cas particulier puisque c'était dans notre famille, mais en rencontrant d'autres personnes qui étaient atteintes de maladie, c'était un cas qui réunissait tout le monde. Donc en fait, on a vraiment eu l'envie de créer pour pouvoir aider et apporter une meilleure solution aux personnes à mobilité réduite.
Et concrètement, quels sont les services que vous proposez en quelques mots?
Alors donc on fait pour l'instant, nous, comme ça fait seulement un mois que nous sommes installés, pour l'instant nous sommes plus sur la rénovation d'intérieur classique, mais aussi dans l'accessibilité. On met aux normes tout ce qui n'est pas aux normes. Tout ce qui est, on pose aussi tout ce qui est barre d'appui pour salle de bain et WC, les mains courantes, les sièges de douche, les portes simples à remettre aux normes ou à en installer, des portes coulissantes. La suppression de cloisons avec une nouvelle ouverture pour créer une nouvelle porte, l'élargissement, tout ce qui touche aux cloisons. Après on fait aussi des travaux de rénovation, donc tout ce qui est peinture et menuiserie d'intérieur, et aussi de la vente de rampes amovibles pour ces personnes à mobilité réduite.
Donc vous proposez aussi effectivement des objets à la vente, vous proposez des devis complets de l'installation, enfin juste de la réflexion des besoins jusqu'à l'installation complète, le service après-vente aussi on l'imagine.
C'est ça.
Alors, est-ce que vous envisagez à terme, peut-être le faites-vous déjà, de travailler avec des communes ou des établissements recevant du public pour justement favoriser aussi l'accessibilité des lieux publics?
Alors oui, on souhaite travailler avec les communes et les ERP, sachant que j'ai déjà rencontré pas mal d'établissements recevant du public qui souhaitaient mettre aux normes leurs locaux, mais qui n'en avaient pas les moyens. Donc c'est aussi un plus pour nous, puisque c'est là qu'on va apporter nos solutions avec nos prix et nos produits et nos services adaptés aussi également. Par exemple, je prends un exemple simple sur la commune de Neuilly-Mines. Il y a beaucoup de RP qui souhaitent mettre leur établissement aux normes mais qui ne peuvent pas puisqu'ils ne respectent pas les normes en vigueur pour ces personnes à mobilité réduite.
Donc un travail d'accompagnement, un travail de mise aux normes également. Et si on souhaite vous joindre, justement, comment fait-on?
Alors pour l'instant, nous avons une page Facebook. Nous avons un site internet qui va bientôt être créé par la société Amphibie qui soutient aussi notre projet. La page Facebook, c'est Concept Autonomie. Après, donc on a une adresse mail conceptautonomie@gmail.com et un numéro de téléphone donc qui est le 06 45 70 23 31.
Voilà, et le slogan de Concept Autonomie qui est assez juste, soyez chez vous partout. Merci Clément Delmar en tout cas.
Merci.
D'être venu présenter à notre micro la société Concept Autonomie.
Le handicap aujourd'hui.
Et nous sommes à présent en ligne avec Marianne Virmounex. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication chez Optoys, donc société montpelliéraine qui va fêter donc ses 20 ans l'an prochain. Vous proposez des jouets adaptés au handicap avec près de 2500 produits référencés au catalogue. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous présenter votre société en quelques mots?
Oui, bien sûr. Alors, Optoys, c'est donc une entreprise qui a été créée il y a près de 20 ans par Brian et Véronique Torres à partir d'un constat qu'ils ont pu faire en revenant des États-Unis en 1999, qui était qu'il existait en France à ce moment-là très très peu de jouets qui pouvaient être utilisés par des enfants présentant des besoins spécifiques. Or, ce constat, associé à la vocation de Brian Torres, qui est éducateur spécialisé de formation, qui avait déjà travaillé auprès d'adolescents et d'adultes polyhandicapés aux États-Unis, on fait que Brian et Véronique Torres ont vraiment souhaité remédier à cela et ont créé cette entreprise, Optoys, donc, qui est vraiment basée sur la conviction que tous les enfants ont un potentiel et que c'est à nous de leur donner les moyens de le développer. Voilà, quelle que soit la manière, quelle que soit la manière dont ils vont apprendre, ils peuvent progresser, ils peuvent grandir en s'amusant, ils doivent pouvoir avoir la même enfance que les autres, profiter des mêmes plaisirs que les autres. Donc voilà, c'est vraiment cette volonté, cette conviction qu'Optoys essaie de porter depuis près de 20 ans. Donc le catalogue est né avec une trentaine de produits. Brian et Véronique Torres se sont à l'époque beaucoup appuyés sur un réseau associatif local, sur des professionnels, des orthophonistes qui nous suivent, qui les suivent depuis le début, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, mais aussi des familles. Et Optoys s'adresse aussi bien d'ailleurs aux professionnels qu'aux familles, et construit depuis près de 20 ans un catalogue, justement en étant à l'écoute des besoins des uns et des autres. Alors des besoins évidemment des familles et des professionnels qui accompagnent les enfants avec handicap, avec des besoins particuliers, mais en fait les besoins de tous, puisque ce qu'on veut vraiment vraiment essayer de faire comprendre, c'est que tout un chacun a à un moment ou à un autre un besoin spécifique. Il n'y a pas un enfant qui ne rencontrera pas dans sa vie des difficultés d'apprentissage. Il n'y a pas un individu qui n'ait pas une particularité sensorielle à laquelle il faut pouvoir répondre. Donc c'est vraiment là le combat d'Optoys, c'est d'abord se battre pour faire accepter que la seule norme est la diversité. Voilà, on réfute vraiment la dualité normale pas normale. Construire une société inclusive, c'est d'abord refuser cette dualité. En fait, aujourd'hui, et là on est en période de Noël, pour nous, le fait de mettre d'un côté des enfants dits normaux et de l'autre côté des enfants avec handicap, c'est aussi absurde que de dire qu'il y a des jouets pour garçons et des jouets pour petites filles.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de jouets typiquement adaptés et typiquement inclusifs ?
Il y en a énormément. Il y en a énormément. Si on parle d'apprentissage des mathématiques, par exemple, qui parmi nous n'a pas eu, n'a pas rencontré des problèmes avec certaines notions mathématiques, avec les notions de division,
de
multiplication. Et moi, j'en parle parce que je suis une fille et que souvent aussi des filles ont été dites mauvaises en mathématiques parce qu'on n'a pas forcément, à notre époque, eu des outils, justement, qui nous auraient permis de manipuler, d'expérimenter, d'arriver plus facilement à l'abstraction, parce que voilà, qu'on ait un handicap ou non, pour certaines personnes, l'abstraction mathématique peut être difficile. Et donc le fait de pouvoir manipuler, le fait de pouvoir avoir des petits, ce qu'on peut appeler des réglettes cuisenaires, ou des, d'ailleurs ce sont des méthodes prônées aussi par Maria Montessori, va permettre d'accéder plus facilement à certains concepts mathématiques. Voilà, c'est un exemple parmi mille. On développe beaucoup depuis l'année dernière notre gamme Petite Enfance. On a fort heureusement compris que ce qui comptait avant tout dans l'éveil du tout petit, c'était son environnement. Alors c'est vrai que j'évoquais Montessori, Reggio sont des approches qui ont permis de faire comprendre cela, qui ont permis de faire comprendre que ce qui comptait, c'était avant tout d'offrir à l'enfant un environnement qui va lui donner envie d'explorer, d'être le petit chercheur, le petit explorateur qu'il est par nature. Et que pour ça, ce qui était important, c'est de lui offrir un environnement riche de découvertes, voilà, et de découvertes notamment multisensorielles. C'est-à-dire que nous, on sait, puisqu'on s'adresse à des publics qui justement vont avoir à un moment un sens qui peut faire défaut, qu'il ne faut pas miser que sur un seul sens. On mise souvent sur la vue, or un tout petit a tous ses sens en éveil, et chacun d'entre nous. Donc on va par exemple prôner des jeux dits d'éveil qui vont solliciter tous les sens.
Voilà. Alors, Marianne Virmounex, malheureusement il nous reste très peu de temps. Justement, simplement une adresse où on peut trouver justement et se rendre compte par nous-mêmes de la gamme de vos produits et puis justement trouver des idées de cadeaux originaux.
Ouais. Alors c'est www.optoys.fr, donc notre site internet. On peut encore commander pour Noël jusqu'au 20 décembre 10h avec un chronopost à frais réduits qui permet de faire ces derniers cadeaux pour Noël. Sachant donc que voilà, on insiste sur le fait que tous nos produits sont sélectionnés de manière extrêmement rigoureuse. On ne garde que 38% des produits qui nous sont proposés à la base. On propose vraiment, on est vraiment en avant à Noël, des jouets qui vont offrir plaisir du jeu, potentiel éducatif et parler à l'intelligence des enfants, tous les enfants.
Merci Marianne Virmounex. Désolé, hein, on doit couper. Je rappelle que vous êtes chargée de communication chez Optoys. À très bientôt. Très bonne fête de fin d'année.
Au revoir.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi.
Merci aussi à tous nos invités qui étaient présents et qui ont réagi autour de la table, des témoignages encore riches. Vous pourrez retrouver très bientôt le podcast sur le www.radioplus.fr.
Voilà, dans quelques instants, eh bien, on retrouve la suite de votre programme sur Radio Plus à 17h. Ce sera localement plus. On remercie évidemment tous les invités qui ont participé à ce débat. Et puis, il y aurait évidemment beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire par rapport à tous ces sujets. Mais malheureusement, le temps presse. Donc voilà, on n'a plus le temps. Donc tout simplement, voilà, on va se retrouver, eh bien, pour une prochaine émission du Handicap aujourd'hui. Donc ce sera l'an prochain, bien évidemment, en 2019. On vous communiquera, bien sûr, la date sur le site internet de Radio Plus. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, puis de très bonnes fêtes de fin d'année également.